Le temps pour nous de faire un long voyage. Et vous, vous êtes où en ce moment? Vous faites quoi? C'est votre pause déjeuner? Vous êtes en demi-sieste en attendant qu'il fasse moins chaud? Vous nous écoutez avec un décalage horaire? Racontez-nous votre route. 01 56 40 68 68. Faites comme Mathilde dans le Walden Pond. Elle nous emmène au Massachusetts.
J'aime bien suivre les traces des descriptions des endroits qui m'ont plu chez certains auteurs. Et bien sûr, Walden Pond, c'était décrit par le philosophe américain Henry Thoreau. Et ce qui me frappe, c'est que c'est vraiment exactement pareil que dans le livre. On voit et on entend surtout les cris des hérons. La végétation est exactement comme il l'a décrit, avec ce type de chêne, des tapis de feuilles mortes, etc. C'est très beau.
France Inter, chacun sa route.
Notre route sera aujourd'hui musicale, solaire, faite de plusieurs virages et détours. C'est une route qui n'est pas tracée, c'est une envie de prendre en main son chemin, n'en faire qu'à sa tête, pour être soi, et ça fait du bien. Notre invité est né à Rio, au Brésil, et vit aujourd'hui en France. Son premier album, dont on écoutera un morceau dans une dizaine de minutes, s'appelle Bossa Muffin et sort en 2011. Elle a sorti l'an passé son quatrième album, DNA, je ne sais pas exactement comment on le prononce, et joue ses morceaux à l'Olympia. Pia, la consécration. Elle nous fait l'honneur et le privilège, pour démarrer cette heure que l'on va passer ensemble, de lire un texte qu'elle a elle-même écrit.
Élodie Font, chacun sa route, sur France Inter.
Cœur voyageur, cœur curieux, cœur affamé, cœur désireux, cœur heureux, cœur orgueilleux, cœur écœuré. Cœur sans un cœur. Cœur solitaire. Cœur qui s'en va. À la recherche de qui? De quoi? Cœur qui revient. Cœur comblé. Cœur perdu. Cœur retrouvé. Cœur fermé. À cœur ouvert. Cœur qui ne trouve le bonheur qu'ailleurs. Cœur qui voit, qui reste sans voix. Cœur marchand, cœur tranchant, cœur volant, cœur brûlant, cœur serré, en accéléré, cœur la seule terre où aucun homme au monde n'a jamais marché.
Bonjour Flavia Coelho.
Bonjour.
Merci infiniment pour ce texte. Vous avez donc écrit ce texte pour l'occasion?
C'est ça. Les personnes de l'émission m'ont demandé si j'avais un texte, quelque chose qui parlait des voyages, etc. Je commençais à chercher, je me suis dit, bon, j'en ai quand même pas mal voyagé de ma vie. Qu'est-ce que dit mon cœur quand il parle? De toute façon, je dis toujours que mon cœur, il est très voyageur.
Ah oui?
Ouais.
Pourquoi vous dites ça?
Parce que là où j'arrive, je trouve toujours un truc magnifique. Là où parfois les gens disent que c'est pas terrible, bon, je préfère ça, ça ou ça. Je suis toujours à la recherche de quelque chose que l'autre n'a pas trouvé. Donc j'aime bien aller dans des endroits où les gens disent « Ah, va pas là-bas parce que c'est pas terrible
». C'est quoi votre dernier coup de cœur où les gens vous disaient « C'est pas terrible »
Ça a été sûrement au pays aussi, parce que les gens au Brésil, c'est nouveau que les Brésiliens se sont mis à voyager hein, il y a à peine une quinzaine d'années. Mais au Brésil, les gens ils disaient souvent que le sud du Brésil n'était pas terrible parce qu'il faisait froid. Bon, je suis allée là-bas, je trouvais ça extraordinaire. Et d'ailleurs, je suis venue vivre en Europe, là où il fait vraiment froid.
Oui, c'est clair. Par rapport au sud du Brésil.
Par rapport au sud du Brésil, on est d'accord.
Le sud du Brésil, il fait froid, pour de vrai?
Oui, il y a des températures hein, bon, à 0 degré, à moins 1 max.
Ah, c'est vrai qu'on a toujours l'impression, vu de loin, qu'au Brésil il fait beau, alors que le Brésil c'est tellement énorme. Parce que évidemment, une température au Brésil, ça ne veut absolument rien dire. Flavia Coelho, vous venez de le dire, votre vie est faite de plusieurs voyages. Peut-être, si vous le voulez bien, on peut démarrer par le Brésil, puisque vous êtes née à Rio, vous y avez vécu, adolescente, à Rio, mais dans un premier temps, vous bougez beaucoup, beaucoup. Quel est le premier endroit où vous avez des souvenirs?
C'est São Luís do Maranhão, c'est au nord-est du Brésil, c'est le pays, l'état où ma mère est née, où d'ailleurs aussi elle est décédée là-bas. Nous sommes partis parce qu'elle avait une grande maladie, elle voulait retourner chez elle. Donc c'est vraiment une partie, avant mon adolescence en fait, j'étais vraiment enfant, et je suis partie de Rio, je vivais dans un quartier plutôt favela, en fait. Donc, nous, les enfants, on prenait le bus, on allait à droite, à gauche, voilà, dans la ville, quoi. Et là, je me trouve en pleine campagne, vraiment, dans les terres, à me trouver, voilà, à pas voir des choses comme on a dans la ville. Parce que même si on a dans des quartiers très simples, nous sommes dans des quartiers très simples, il y a toujours une douche, l'eau qui vient un peu de robinet à droite, à gauche. Là-bas, il n'y avait absolument rien.
Ah oui?
J'étais face à la forêt, aux grands araignées, aux cobras, aux fruits, aux légumes, à tout ce qu'il y avait autour. Donc, c'était vraiment une partie magique de mon enfance où j'ai grimpé aux arbres, je me baignais dans les rivières. Alors que j'étais vraiment une enfant citadine des favelas, je me retrouve dans le cœur de la forêt.
Vous avez dit grosse araignée, cobra et magique dans la même phrase? Pour
c'est
de vrai?
Ça. Ouais, pour de vrai, parce qu'avant, quand je les voyais, j'allais jouer avec. Aujourd'hui, je cours.
C'est vrai? C'est passé votre...
Ah non, mais je sais pas vous, mais moi, j'ai toujours cette impression que quand on grandit, on commence à avoir peur des choses. C'est, je sais pas, cette extrême protection du corps. Je pense dans l'importance de voyager pour perdre, pour reprendre les liens avec l'enfant, en fait, qu'on a dans nous. J'ai toujours eu ce truc. Quand j'étais petite, j'avais peur de rien, juste dans cette période dans la forêt où, voilà, il y avait tout dans la maison. Les bêtes, les animaux, ils étaient toujours là. J'avais pas peur. Mais aujourd'hui, dès que je vois une petite araignée comme ça, je suis en panique.
Vous avez l'impression, Flavia Coelho, que vous avez eu peur à partir de quand?
Je pense vraiment que c'était quand je suis retournée en ville et peut-être vraiment l'âge adulte, quand on commence vraiment la moindre blessure, tout commence vraiment à faire très mal. Et c'est là quand on commence à prendre l'idée de ce que c'est le corps, que c'est être adulte. Je pense vers une vingtaine d'années.
Vous avez beaucoup déménagé quand vous étiez enfant. Vous avez déménagé à peu près 2 à 3 fois par an, c'est ça?
Ouais, ouais. Parfois, ouais, c'était ça, ouais. 3 écoles dans la même année.
3 écoles dans la même année.
Ouais.
Comment on fait quand on est enfant? On est ultra sociable et on se fait des amis partout ou au contraire on arrête de se faire des amis parce que on a l'impression de les perdre en permanence?
Oh, j'avais pas cette idée-là, en fait. Quand j'étais enfant, mon truc c'était, je trouvais ça génial que mes parents pouvaient m'amener à droite à gauche. Je me plaignais pas plus que ça. Je trouvais ça marrant de pouvoir faire des rencontres. Et ma mère m'a appris très tôt qu'il fallait surtout pas avoir peur des gens parce que on a besoin les uns des autres. On a besoin de cette communication, de ce contact, de se rencontrer. Et donc, c'était magique. C'était justement le contraire. Quand je suis revenue à Rio, retournée à Rio, vivre à Rio, dans une maison fermée, à l'école tous les jours, la même école toute l'année, je disais, attends, il faut que je trouve un métier vite là pour reprendre les voyages, les rencontres parce que c'est ça ma vie.
Ouais, vous l'avez senti très vite, ça?
Très vite.
C'est fou parce que le mouvement, effectivement, ça pourrait être, le mouvement à ce point-là, ça pourrait être assez, comment on pourrait dire, je ne trouve pas le mot, mais ça pourrait être quelque chose qui empêche.
Tout à fait, ouais, le fait d'être trop forcé, parce que vraiment, à l'époque, c'était le boulot de mes parents, surtout le boulot de ma mère qui la faisait, qu'on a dû bouger beaucoup comme ça. Mais non, au contraire, je n'ai pas eu du tout le refus de ça. Au contraire, j'adore. Paris, c'est la ville que j'ai vécu le plus longtemps. Maintenant, je suis à Montreuil, mais je passais quand même plus de 10 ans sur Paris. C'est extraordinaire dans ma vie.
J'imagine. Elle était maquilleuse, hein, c'est ça, votre mère?
Maquilleuse et coiffeuse, ouais.
Maquilleuse et coiffeuse. Et alors, il y a un autre voyage dans le voyage, puisque certes, vous bougez, il y a du mouvement, mais il y a un autre voyage dans le voyage parce que vous êtes dans des cabarets.
Tout à fait.
Racontez-nous à quoi ça ressemble, cette vie en cabaret.
Alors là, j'ai grandi dans des cabarets où ma mère elle a travaillé, en fait. Elle a maquillé et coiffé les premières transgenres, transsexuelles qui faisaient des spectacles au Brésil, à São Gonçalo, Niterói, là où on a grandi. Et j'étais une enfant entourée de plumes, de peintures, de maquillage, de danse. Et j'étais dans ce voyage de tolérance, en fait, dans ce voyage d'amour, de parfois avoir des vies, des histoires et d'entendre des choses très difficiles, mais tout avec beaucoup d'envie, de vaincre, de continuer, de voilà, cette chose de voyage, vraiment dans le voyage, comme vous venez de dire, Elodie.
Vous faisiez quoi? Vous regardiez votre mère maquillée et coiffée?
Exactement, et parfois je collais des petites paillettes ou des trucs, je faisais de la couture, j'enlevais une perruque, l'autre par-ci, par-là, c'était extraordinaire.
Est-ce que vous avez gardé ce goût pour vous-même, vous habiller autrement?
Complètement. J'ai toujours été l'enfant bizarre, étrange de la maison. La deuxième partie de ma vie, quand je suis allée vivre avec mon père, que là c'était vraiment une maison, plus de voyages, plus de cabarets, etc. C'était compliqué d'avoir des cheveux différents ou trouver des looks différents et toujours maquillée. À 10 ans, j'avais déjà des pilotis, des chaussures à talons, trop maquillée, etc. Et maintenant, c'est complètement tout l'inverse. Je mets des baskets depuis 10 ans.
J'ai lu que quand vous étiez enfant, votre mère, elle vous faisait chanter et imiter Michael Jackson.
Et ouais, ce bon vieux Michael. Et Michael Jackson, et Madonna, et Diana Ross, et Nina Hagen aussi. Ma mère m'a maquillé la tête toute blanche avec les cheveux oranges à la Nina Hagen. Et à 10 ans, j'ai chanté en allemand sans comprendre un seul mot. Et d'ailleurs, tout l'anglais aussi.
Je sais pas si on peut faire ça pour tous les artistes. Si vous prononcez le nom, on l'a. Mais là, en l'occurrence, Nina Hagen, on l'avait.
Ah, j'adore.
On l'avait. C'est vrai, ça vous rappelle plein de souvenirs.
Ah ouais, non, mais je suis allée à Berlin, je suis allée en Allemagne plein de fois pour. Je parle un petit peu allemand. Ça est devenu n'importe quoi, vraiment. Je trouve que Nina, et en plus quand je commençais vraiment à connaître son histoire, chanteuse lyrique qui a étudié le chant et la musique vraiment avec beaucoup de sérieux et qui est transformée en chanteuse punk, révélation des années 80 avec tout un féminisme ancré et fort comme ça, c'est extraordinaire le parcours de cette femme. Ça, c'est un voyage dans le voyage.
C'est vrai, il y en a beaucoup hein, des voyages dans le voyage. C'est pratique pour mon émission, ça m'arrange
mais grave.
Bien. Et vous arrivez encore, ça vous arrive d'imiter Madonna, d'imiter Michael Jackson?
Écoute, Michael un peu moins quand même. Mais ouais, Madonna, c'est quand même celle qui a ouvert la porte de la pop. Et pour toutes les chanteuses, je pense un petit peu qui font ce genre de musique qu'on aime bien, quoi. Ça reste quand même une inspiration. Oui, Nina, bien sûr, Nina Hagen, c'est pour toujours. J'essaie toujours de faire, de mettre des grands cils quand je peux.
C'est pas le cas aujourd'hui.
Si, c'est le cas.
Si, c'est le cas.
Bien sûr. T'as vu comme c'est discret?
Ouais.
C'est tellement ancré, en fait. C'est cette Nina qui est dans moi.
C'est aussi que je suis myope, donc, en fait, quand ça dépasse 10 cm, je vois pas toujours extrêmement bien. Est-ce que vous êtes quelqu'un de nostalgique, vous, Flavia Coelho?
Un petit peu, quand même. Je pense que c'est dans mes racines brésiliennes d'aimer le passé, etc. Mais pas plus que ça. J'aime bien quand même voir de l'avant. Je suis contente de ce moment de ma vie. Je vais bientôt avoir 40. Je suis très heureuse de tout ce que je vis, d'être en bonne santé. Je suis triste, bien évidemment, avec ce qui se passe autour de moi. Mais justement, encore une façon de relativiser la vie merveilleuse que j'ai, d'être ici maintenant, de vous parler aux auditeurs, faire de la musique, être en bonne santé.
Oui, et notamment de ce qui se passe au Brésil, mais on en parlera tout à l'heure. Flavia Coelho, vous restez avec nous, bien sûr, mais nous, on avait envie de vous entendre.
Opa.
Alors, on a retrouvé un extrait de votre premier album. Gardez votre guitare. Vous avez amené une guitare et c'est super. On va vous entendre avec la guitare dans quelques minutes. Mais là, on va écouter un extrait de votre premier album. C'était il y a presque 10 ans déjà.
Ça
remonte
vite.
Un peu.
Hein. Ouais, ça commence.
Ça remonte un peu. Bossa Muffin, Flavia Coelho est en direct avec nous sur France Inter. C'est Chacun sa route.
Num dia de chuva, ele disse, tem que ter, jogar com a sorte. Coragem, com um braço forte, oh, jogar com a sorte. Aprendeu na marra, na mata, com um índio guarani do terceiro mundo. Foi na África, viu Bangladesh, dormiu com o deus Ganesh. Ficou intrigado, quis ver com seus próprios olhos um arco-íris. Diz que essa viagem só o ajudou a descobrir povos desconhecidos, que disseram pra ele que o homem é seu próprio inimigo. Consigo conquistar com povos esquecidos que o levaram numa cabana de bambu num lugar perdido. E tem que se adaptar, tem que comer tudo que oferecem, agradecer o dia fazendo uma prece. E depois de tudo viajar, decide que tem que acalmar. Tá pronto pra asfixar, encontrar alguém pra tudo ensinar. Num dia de chuva se deparou com um garoto na rua e lhe ensinou a oração para sempre. Esse
tem que contar com a sorte. E contar com a sorte. Oh,
l'artiste Flavia Coelho qui nous fait le plaisir d'être avec nous sur France Inter jusqu'à 15h. C'est Chacun sa route. Flavia Coelho, on vous entend chanter. C'est vraiment hyper solaire comme musique. Ça fait vraiment du bien. On parlait tout à l'heure. On va aller à Rio parce que ça y est, vous êtes dans l'adolescence. Vous y allez. Votre mère est décédée. Vous étiez très jeune, malheureusement. Et donc, vous allez habiter avec votre père. Lui aussi vient du Nord-Est. Hein.
Lui aussi, il vient du Ceará. C'est l'état juste à côté de celui de ma mère.
Ouais. Est-ce que ils avaient tous les deux l'impression d'être un peu des immigrés à l'intérieur du Brésil? Par exemple, quand on est à Rio, est-ce que quand on vient d'une région qui est finalement assez éloignée, hein, quand même?
Tout à fait.
C'est, je sais pas combien d'heures c'est, mais...
On dit entre 4 et 5 heures de vol.
4 et 5 heures de vol?
Ouais.
Donc c'est quand même assez loin. Est-ce que on a l'impression d'être immigré à l'intérieur de son pays dans ces cas-là?
Complètement. Déjà quand on part, quand on sort de la ville de Rio à São Paulo, qui est à peine une heure de vol, nous sommes en carioca à São Paulo. Et il faut savoir aussi que pour les gens du Nord-Est, c'était assez compliqué parce que il y avait tout le racisme social, le racisme envers les peuples qui viennent du Nord-Est, parce qu'ils mangent pas comme ceux qui viennent du Sud, ils marchent pas comme ceux qui viennent du Sud, ils ont un accent très très fort, ils sont pas bons, bon. Il y avait toute cette stigmatisation autour des gens qui venaient du Nord-Est par rapport à la taille de la tête, la façon de parler. Ah non, mais vraiment des énormes bêtises que mes parents et beaucoup d'autres Nord-Estans ont subi, ils subissent même jusqu'au jour d'aujourd'hui, un peu moins, mais quand même il y en a beaucoup. Donc on subissait ces genres de racisme tous les jours, hein, partout, dans l'école, etc. Et moi, j'ai pas du tout fait un refus de cette origine-là de mes parents. Au contraire, j'ai absolument pris tout ce qu'ils appellent le stéréotype du Nord-Estin.
C'est-à-dire?
Il est en moi. C'est-à-dire que moi, j'ai un accent plus du Nord-Est que celle de Rio. Je me comporte beaucoup plus comme les gens du Nord-Est que ceux de Rio. Bon, bien sûr, quand je suis avec les gens de Rio, je prends l'accent, je deviens une carioca, comme on appelle les gens qui viennent de là-bas. Mais c'est tellement ancré dans moi, le fait que on subissait tellement de choses méchantes, les gens disaient tellement de choses méchantes au Nord-Estin que j'ai appris ça pour moi. Et donc, depuis très jeune, j'ai cette d'où partie en moi, en fait. Je suis immigrée dans mon propre pays.
Et vous le ressentez aussi vous-même?
Bien sûr.
Pas que vos parents, en fait.
Ah non, bien sûr, tout le monde subit le même sort, hein. En fait, aujourd'hui, le Nord-Est, c'est un énorme, ce qu'on appelle un énorme continent. Il y a même ceux qui ont déjà parlé de la séparation du Nord-Est avec le Sud, parce que le pays, il est vraiment s'est développé. Mais c'était très compliqué, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est très compliqué. Ce genre de petites blagues, des choses qui sont pas bien... Du racisme social, quoi, on appelle ça.
C'est vraiment un racisme parce que les gens sont plus pauvres.
Parce que les gens sont les plus pauvres, et que aussi c'est une période où les gens, là on parle des 4 heures de vol, mais mes parents par exemple, ils ont fait 10 jours assis dans un camion, au fond d'un camion pour faire le voyage, parce que les routes c'était pas comme ça, c'était dans les années 60-70, donc il y avait pas encore des bonnes routes, etc. Ils voyageaient avec des animaux, etc. Et c'était les gens qui venaient pour construire la ville du sud de São Paulo et Rio. La capitale de São Paulo, je sais pas, ils sont 10 millions, dont 6 millions de Nord-Estins sûrement. Je dis des chiffres comme ça, c'est pas du tout mon truc. Je sais qu'il y a 10 millions, voire un peu plus à São Paulo, mais c'est la vérité. Jusqu'à aujourd'hui, on est charriés, les gens sont charriés comme ça, parce qu'ils viennent du Nord-Est, quoi. Mais le Nord-Est, c'est un grand pays qui a énormément développé, qui a des talents incroyables. C'est un grand peuple, un énorme peuple.
Vous parlez de Rio, Flavia Coelho. Emmenez-nous à Rio, au-delà de la plage. Hein. Nous, c'est un peu ce qu'on connaît de la plage.
Ah, bah ouais.
Enfin, c'est ce qu'on connaît de la plage, c'est ce qu'on connaît de Rio, surtout. Quand je dis connaître, je dis on voit des images, on voit à peu près. À quoi ça ressemble la vie quotidienne à Rio?
La vie quotidienne à Rio, il y a plusieurs vies. Il y a la vie de ceux qui ont une vie plus simple, qui vivent dans les quartiers, dans les favelas, dans les morros. Il y a ceux qui vivent les belles vies, Copacabana, Ipanema, Leblon. L'avantage de Rio, c'est que la plage, elle est pour tout le monde. Peu importe où on vit, va falloir nous côtoyer. Vous nous aimez ou pas, on est là. Mais il y a beaucoup de fruits aussi. Il y a quand même ce qu'on appelle la Mata Atlântica, que c'est une forêt en plein centre-ville. En fait, Rio, c'est ça. C'est la forêt qui mange la ville et pas la ville qui mange la forêt.
Et ça me rappelle la première partie tout à l'heure, la ville qui mange la forêt ou la forêt qui mange la ville. Et puis en parallèle se dessine votre voyage musical, puisque à 14 ans, vous faites une petite fugue. On peut dire ça comme ça.
Ah, ouais.
Pour participer à un casting, vous aimez fuir?
Je crois que c'est un petit peu dans mon ADN. L'histoire, c'est que voilà, je cherchais une chanteuse, j'étais à l'école, j'ai dit bon, aujourd'hui je vais pas à l'école, je vais répondre à cette annonce de casting, ma vie a changé et j'ai commencé à travailler avec les premiers groupes et je ne suis plus jamais arrêtée.
Et vous n'êtes pas retournée à l'école?
Si, j'ai fini quand même. J'ai eu mon bac parce que mon père m'avait demandé si je pouvais le faire et après il m'a donné la liberté pour faire ce que je voulais et là j'ai vu un peu de soleil, ça me faisait penser un peu à ça là.
Tudo que ele quer é um pouco de sunshine. Why oh, why oh, why oh.
J'ai cherché le soleil en fait, ma liberté.
E tudo que ele quer é um pouco de sunshine.
Ah, c'est beau. Qu'est-ce qui vous manque alors dans la vie sédentaire? Quand vous étiez chez votre père, que vous ne pouviez pas beaucoup bouger, en tout cas que c'était une vie relativement classique par rapport à celle que vous meniez avec votre mère, qu'est-ce qui vous manquait?
À vrai dire, je bougeais quand même parce que...
Ah oui, avec lui aussi.
Ah ouais, non, vite fait. Lui, il n'était pas un grand bougeur, si je peux dire comme ça, comme ma mère, un grand voyageur, parce qu'il avait vraiment une autre activité. Mais comme j'étais chanteuse déjà à l'âge de 14 ans, je vivais dans un endroit qui s'appelle San Gonçalo et j'allais chanter à 2 heures de là. Donc je faisais 4 heures de trajet, 4 fois par semaine pour aller chanter, la nuit. J'avais voilà 14 ans, 15 ans. Donc mes voyages, c'était ça. Et bien sûr, après, je commençais à travailler avec des groupes qui m'ont amené voyager partout dans le pays. Ouais. Donc avant que je vienne vivre en Europe, j'avais beaucoup voyagé dans le Brésil. J'ai dû connaître entre 18 et 19 États brésiliens, sachant que nous avons 26.
Oui, donc en fait, dans votre vie, il y a eu quoi? Il y a eu 2 ans où vous n'avez pas bougé?
Il y a eu 2 ans où je n'ai pas bougé, quoi. Voilà, c'est tout. Et après, parce que c'était les 2 premières années où mon père, il ne savait pas que je chantais. Et quand il a appris, il a dit, bon, c'est bon, tu peux aller chanter, t'es libre.
Il l'a accepté facilement?
Et il a accepté, il a trouvé ça génial de voir une fille chanteuse.
Ah, sympa.
Très enfin, sympa.
Je ne sais pas si c'est le terme, mais...
Si, parce qu'à l'époque, c'était compliqué aussi. Une jeune fille, on est dans les années 90, les parents au Brésil sont quand même très conservateurs. Une jeune femme qui sort chanter dans la nuit, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qu'elle a fait dehors? Qu'est-ce qu'elle est en train de chercher dehors, etc. Donc, il y avait beaucoup de jugements comme ça, et mon papa m'a toujours protégée.
Et fait confiance.
Et fait confiance.
Flavia Coelho, on fait un petit bond dans le temps après avoir beaucoup voyagé dans le Brésil. Vous arrivez donc à Paris, vous avez 26 ans. Pourquoi partir à Paris?
Je suis venue en 2002 avec un groupe de musique brésilienne, un spectacle brésilien, etc. Et j'ai eu un coup de foudre pour la ville de Paris, vraiment. Je me suis dit que si un jour je faisais la musique, ça serait ici que j'allais faire ça. C'est-à-dire la musique, un disque, parce qu'avant j'étais chanteuse de bal, de cabaret, voilà, de carnaval, etc. Je faisais pas mes compositions, j'écrivais pas mes paroles. Et voilà, 2 semaines à Paris, dans ce coin où on peut tout faire à pied. Il y avait tellement de musique à l'époque, il y avait beaucoup plus qu'aujourd'hui, j'ai l'impression. Toutes les bars, il y avait des musiciens de jazz, de blues, de musique des Balkans, musique d'Espagne, du Brésil, un batteur brésilien avec une chanteuse américaine, un bassiste camerounais. Bref, dans de ce petit périmètre, on partait d'un bar à l'autre, il y avait de la musique. Donc je me disais, c'était ça que je cherchais. Et partout, j'entendais les influences du Brésil, en fait. J'entendais de la musique slave, j'avais déjà entendu ça au Brésil, de la musique de la Libye, de Sénégal. Tout ça que j'entendais ici, j'avais déjà entendu au Brésil. Donc je me disais, peut-être mon ADN est un peu par là.
Et vous retournez donc à Paris, mais là pour le coup pour y
vivre.
Vivre
en 2006.
Vous prenez pas de billet retour?
Si, mais je suis pas rentrée.
C'est vrai?
Ouais, parce que pour des questions administratives, il faut quand même avoir un billet pour rentrer.
Ah
oui.
Et ça vous rappelle quelque chose? Je vous vois prendre votre guitare. Ça vous rappelle une musique quand vous êtes arrivée à Paris?
Ça me rappelle justement par rapport à ce que je dis tout à l'heure. J'ai cherché mon ADN alors qu'il fallait que je parte du Brésil pour comprendre que j'étais, qu'il était partout en fait, là où j'y allais. De noite de dia, você sempre se pergunta. Quero uma resposta correta, bem mais profunda. A definição da verdadeira identidade. De onde vem a tal da sua singularidade? Apresente o prêmio, o presente que ganhou. Sangue misturado tá correndo em sua veia. Você constituído numa célula de amor. Riqueza exuberante tá no seu DNA. Tá no seu DNA. Tá no seu DNA. No seu DNA.
Vous partez avec 200 € en poche. On fait pas grand chose avec 200 euros.
Oh, à l'époque, je peux me débrouiller quand même. Mais quand on n'a pas beaucoup d'argent, il faut aller chercher l'argent. Donc, je suis allée chanter dans le métro, là où les gens ils chantaient dans le métro. Je passais le chapeau dans les terrasses, chose que je n'avais jamais fait auparavant au Brésil. Dès que j'ai commencé à chanter, j'étais déjà sur des scènes, etc. Au Brésil, ça va vite, hein, 10 000 personnes, 30 000 personnes. Tu fais un guitare-voix, il y a 500 personnes. Et là, c'était comme ici, métro, terrasse de café, passer le chapeau. Jusqu'à ce que je fasse la rencontre d'un cabaret à Paris 5e qui s'appelle Le Trois Maillets et qui m'a embauchée et que ensuite j'ai rencontré mon producteur Victor Vague et on a commencé à faire des disques.
Et vous chantiez quoi dans le métro?
Alors, dans le métro, c'était plutôt des trucs brésiliens, anciens. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Vraiment le cliché que les gens avaient besoin d'écouter, voilà, la musique brésilienne avant, c'était ça. Et ça, je pouvais pas supporter. Je me disais, s'il faut que je fasse un album avec ce qu'on a au pays aujourd'hui, quoi. Au Brésil, on a du hip-hop, du reggae, du rap, du trap, on a tout, donc c'est pas possible, il faut changer.
Ne pas rester enfermé dans ce que l'on pouvait attendre de vous parce que vous étiez brésilienne. J'ai juste une question sur le métro. Moi, quand je prends le métro tous les jours, on entend, alors là, un peu moins en ce moment d'ailleurs.
Beaucoup moins.
Beaucoup moins en ce moment, mais on entend donc beaucoup de groupes ou de gens seuls se produire. Et je me dis que ça doit être très très dur de jouer face à tellement de gens qui sont avec un casque sur les oreilles, ne regardent pas la personne, qui sont un peu dans leurs pensées. Est-ce que vous ressentiez ça ou est-ce que vous arriviez à les capter?
Bien sûr qu'au début c'était pas facile, c'était une première fois que je le faisais, mais après on apprend. On apprend surtout avec toutes les brothers et les sisters qui travaillaient à l'époque parce qu'il y en avait beaucoup de musiciens. Il y avait carrément une organisation d'agenda. Ok, maintenant tu fais la 4 de tel endroit à tel endroit, la 10 de tel endroit de tel endroit. Et les gens, ils nous apprenaient en fait comment le faire. Et ensuite, quand je travaillais aussi dans d'autres endroits, dans le cabaret à l'occurrence, combien de fois je ne chantais pour des gens qui étaient là et qui ne regardaient même pas, qui ne s'intéressaient même pas. Ça arrive dans la vie de tous les jours. C'est juste que le métro, c'est la seule particularité, c'est que nous sommes sous terre.
Oui. Sinon, vous n'avez pas un conseil pour quelqu'un qui se retrouve face à un public plus ou moins motivé?
Si, j'ai un très bon conseil. Faites les choses par amour, pas pour les gens. Faites la musique pour soi-même, parce que c'est comme ça que ça marche. Il ne faut pas la faire pensant à l'autre, il faut d'abord penser à soi. Parce que quand on prend du plaisir, que celui qui en face prend du plaisir.
C'est un début d'après-midi en votre compagnie. Le chanteur néerlandais Benny Sings nous enveloppe de sa pop. Sur France Inter, vous écoutez Chacun sa route avec Flavia Coelho. I don't wanna make a fuss. Benny Sings sur France Inter. Tous les jours, à cette heure-là, à peu près 14h35, je dis après 14h30, mais je pense que faut que je me résigne à dire 14h35, vous nous racontez un voyage à vous, vous qui nous écoutez. C'est un moment dans un voyage, une relation à distance, un aéroport, un train qui vous a marqué. Ce n'est pas forcément un ailleurs très loin, mais c'est votre parenthèse à vous. Racontez-nous, parfois je mets quelques jours, mais je réponds à tout le monde, c'est promis. Le répondeur 01 56 40 68 68, mon compte sur Twitter Hellofond, mon mail elodie.fond@radiofrance.com. Et aujourd'hui, comme on savait que vous seriez avec nous, Flavia Coelho, on part au Brésil avec Mariam.
Je suis arrivée à Rio fin 2013. Je parlais pas un mot de portugais, j'avais rien vu du Brésil. J'avais juste commencé à m'installer, j'étais même pas chez moi. Et ça m'arrive fin août. À midi, je fais un footing à Flamengo. C'est un espèce de parc qui longe la mer. C'est un lieu qui est assez fréquenté, mais qui est aussi craint. Il faut faire attention. Mais le jour comme ça, quand il fait beau, voilà. J'y vais, il y avait peu de monde. Je commence mon footing. Je passe sous un petit pont. Et juste après le petit pont sur la pelouse, un homme à terre. Je le regarde, je trottine. Et je me dis, non, il y a un truc qui va pas. Et en fait, je vois, il rampe. Je reviens. Je m'approche un peu, je me dis c'est peut-être un guet-apens, peut-être qu'il fait ça pour que je m'approche et ensuite voilà, peut-être que c'est marqué sur ma gueule, gringa. Et là je lui parle, monsieur, il se retourne, il arrive à me regarder en détresse totale, la gueule complètement tuméfiée avec du sang. Je me rends compte qu'il a un trou dans son t-shirt, en fait il vient de prendre une balle. Là, panique attaque, je lui dis ne bougez pas, je ne sais même pas dans quelle langue je vais parler. C'est un truc de malade, j'avais jamais vu... En fait, je me jette sur lui et j'essaye de lui soutenir la tête, en fait, et de lui dire, ça va aller, on va appeler les secours. Comme mes codes de française, de ma vie normale, de parisienne, qui, quand quelqu'un est blessé, bah voilà, on lui porte assistance. Il est dans mes bras, donc il est au sol, je me suis agenouillée, je lui tiens, je lui parle. Un attroupement se crée, des gens me filment. Un cercle se forme et je vois beaucoup de policiers arriver. Moins tu es en contact avec la police à Rio, mieux tu te portes. Moi, c'est toujours ce qu'on m'a dit. Je suis une femme noire qui est une tête de brésilienne et je suis en train de porter secours à un mec qui, en fait, est un bandit. On me demande plusieurs fois est-ce que je suis la femme de cet homme. Je commence à paniquer, à hurler, à essayer de le protéger en leur disant « vous l'étouffez ». Là, un flic le pousse avec son pied pour appuyer sur sa blessure. Et là, je commence à hurler sur les flics. Arrêtez de le toucher! Ils auraient pu me suivre chez moi. Il suffit de rien du tout. Ils m'embarquent et je disparais, en fait. La police, c'est ça. Et comme je vois qu'il étouffe, j'ai remis sur le dos. Je lui ai fait un massage cardiaque, bouche à bouche. Et il est mort dans mes bras. Voilà. Il est mort dans mes bras. Il me tenait la main très fort. Il avait les yeux ouverts. Il est mort en me regardant. Les gens étaient complètement désemparés. Certains rigolaient et disaient « Allez, un de moins ». Et c'est là que tu comprends ce que c'est que le Brésil et cette société ultra-violente, sans éducation, où les enfants qui viennent des favelas et les gens de favelas n'ont aucune chance de survivre et de continuer, où le slogan « Un bandido bon et bandido morto ». Un bon bandit est un bandit mort. Et j'ai un pote... qui m'a dit je suis désolée, je suis tellement désolée. Il m'a pris dans les bras, il m'a dit mais c'est le Brésil, c'est ça Rio ma chérie, voilà, bienvenue, c'est comme ça et c'est comme ça tous les jours. Tu peux pleurer, ça fait du bien de pleurer, mais sache une chose, t'as été la meilleure chose qui a pu arriver dans la vie de cette personne et tu l'as accompagnée dans sa mort. Ce jour-là, bah, y a un flic en civil qui a tiré sur deux mecs dans un bus qui était en train de faire un braquage et il y en a un qui est mort dans le bus, et il y en a un autre qui a réussi à casser la vitre, à s'échapper, à traverser une autoroute et à arriver, boum, devant mes pieds. Alors que j'étais en train de faire mon petit footing de petite gringa française, parce que c'est so cool de faire un petit footing à Rio le long de la plage, c'est tellement ça Rio de Janeiro.
C'est très éprouvant comme témoignage celui de Mariam. Je vous sens très émue d'ailleurs, Flavia Coelho. ce que vous, si vous voulez, ce qu'on peut faire, c'est que ça a vraiment, c'est vraiment en écho à un titre de votre dernier album, DNA. Ça s'appelle Sida de Perdida et on met un petit extrait comme ça où on a le temps de faire redescendre les émotions.
Modificar o nome da bomba, de TNT pra RJ, a população fica bamba. Como a gente faz, dá de cara na porta. Quem que roubou? Mala de dinheiro deram. Golpe no estado, fugiram pro estrangeiro. Corrupção e medo de mãos dadas estão lá fora. Tu bateu o bico, bate a bota antes da hora. Vê, professor, pobre sem salário, sendo ameaçado. Crime tá organizado. A verba foi cortada da merenda da escola. Criança carente se aproxima da pistola.
Un peu naïvement, quand j'ai écouté votre dernier album, j'avais pas compris les paroles. Hein. Je ne parle pas le portugais.
Comment ça?
et donc, je pensais que c'était assez léger comme titre. Et puis après, j'ai lu les paroles, et en l'occurrence, absolument pas, puisque vous mêlez cette musique qui est solaire, avec des propos qui sont, pour le coup, très corrosifs, et effectivement, qui résonne aussi dans cette violence qu'il y a à Rio.
Violence laquelle nous avons tous grandi avec, ceux qui sont là-bas à Rio. D'ailleurs, dans le témoignage de
Mariam.
De Mariam, elle a dit ça très clairement. Il y a ceux qui rigolent, il y a ceux qui prennent des photos, il y a ceux qui disent un des moins, un bandit des moins. Et que c'est comme ça depuis ma naissance, en fait. Depuis que je suis née là-bas et que je vois tout ça autour de moi, j'en ai perdu des amis pour des violences. Telles comme cela et d'autres encore. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai quitté le Brésil en partie. J'avais vécu un cas de violence assez très compliqué avec un ami très proche. Et ce truc m'a marqué vraiment. Et quand j'étais ici en Europe, j'ai dit, bon, ici, voilà, il y avait un truc différent qui s'est passé. Cette chose de pouvoir se détendre un petit peu, comme a dit Mariam, de pouvoir courir, même faire un petit footing à la con, qu'on pense qui c'est pas important, mais au Brésil, c'est pas possible. Dans à Rio, ce n'est pas possible. Et dans mes chansons, dont celle qu'on vient de faire, que je viens de chanter, La Cidade Perdida, c'est ce que j'ai vu, c'est ce qu'on vit depuis toujours. Ça devient de pire en pire. La première phrase, j'ai dit, ils ont modifié le nom de la bombe. Maintenant, elle s'appelle RJX, les initiales de Rio de Janeiro. Ouais. Je tremble quand je parle de ça parce que c'est triste de savoir qu'il y a plus de 40 ans, il y a le trafic a pris le dessus et maintenant le trafic, il est dans l'Assemblée. Ce sont les députés, les sénateurs, voire même le gouverneur. Donc c'est la chose a changé de cap. Ils deviennent de plus en plus bien placés et en train de maltraiter de plus en plus les gens.
Ce que vous voulez dire, c'est que la violence qui dans votre enfance était cantonnée à certains quartiers, aujourd'hui elle est plus,
elle est administrative, elle est derrière les bureaux, bien sûr, elle est partout et ça, ce n'est pas un secret. Ce que je dis ici, tout le monde peut chercher sur Wikipédia, Google, etc. Et vous allez tomber sur toutes sortes de corruptions qui étaient faites.
Oui, d'ailleurs,
dans des temps
plus
de Covid.
Oui, mais je pensais pas que c'était forcément plus qu'il y a 10 ans ou 15 ans.
Ça a toujours été comme ça, en fait. C'est juste que maintenant, nous avons démocratisé la violence, en fait. Mmh. Les gens, ils trouvent ça normal d'avoir des morts devant chez eux, et avec une balle. Voilà, tant mieux. Justement, pendant cette période de Covid, les gens, ils disent que certains Brésiliens, ils sont très désintéressés par rapport aux chiffres, parce qu'ils disent il y a 30 000 homicides par an, mais s'il y a 60 000 de Covid, c'est pas grave. Donc, voilà, cette relativisation de la violence qui nous a été ancrée à cause de ce genre d'événements, et qui est aussi à la télé, si vous ouvrez la télé, vous regardez la télé à Rio, c'est des violences ou violences, il y a des émissions qui montrent qu'il y a de la violence toute la journée. Mmh. Donc, c'est malheureusement ça aussi, la ville dans laquelle je suis née.
Et vous dites d'ailleurs que pour écrire ce titre, vous vous êtes, c'est quand vous avez su que Bolsonaro était
tout à fait
élu, hein, à la tête du Brésil, et que ça vous a
terrassé.
Voilà, j'allais dire, ça vous a mis dans un état de dépression pendant quelques jours, et vous êtes chez vous et vous vous dites, faut que j'écrive là-dessus, faut que ça sorte de moi. Est-ce que ça veut dire que même à distance, même dans une ville comme Paris ou la France, même si la violence ici au quotidien, elle est quand même pas du tout du même acabit, est-ce que c'est quelque chose que vous aurez en vous pour
toujours? Toujours. En fait, quand on voit des amis mourir, subir des violences, ou même nous-mêmes subir des violences par soit les bandits, parfois les policiers là-bas, qu'on sait qu'au Brésil, on a un grand problème avec les policiers là-bas, on garde ça dans nous, en fait. Ici, c'est pas parce que je vis en France, je vis en Europe, que je marche avec mon sac ouvert, que je parle au téléphone comme s'il y en était. Je suis en éternelle surveillance, en fait. Là où je vais dans le monde, j'ai la surveillance de quelqu'un qui est né à Rio de Janeiro. Ça, c'est ancré, c'est dans notre ADN, en fait. On se surveille, on fait attention à qui arrive, qui est qui. On entend même par le ton de la voix de la personne, si elle est stressée, si elle est en violence, si elle sent qu'il va, quand ça va péter, en fait. On a ça dans nous.
Donc c'est difficile d'être profondément libre, en tout cas détendu dans sa liberté.
Ouais, c'est un peu comme si on vivait dans un éternel film d'action blockbuster hollywoodien, quoi. On sait que ça peut péter à n'importe quel moment, donc il faut surveiller. Et ça, c'est dans moi. Je suis comme ça. Et mes amis, à chaque fois que j'amène quelqu'un au Brésil, ou même quand je suis ici dans certains endroits où je vois qu'il y a peut-être une ambiance qui devient un peu plus lourde, on part.
Ouais.
Parce que ça peut se passer.
Et ça se passe en France aussi?
Parfois ça se passe, mais bon, c'est pas du tout le même niveau. Ici, les gens, ils portent pas d'armes, ils sont quand même, c'est pas pareil. On peut pas comparer ce qui n'est pas comparable.
Est-ce que vous retournez au Brésil de temps en temps?
La dernière fois, il y a 2 ans, avant les élections, et maintenant, j'attends la fin du mandat.
Donc, dans 2 ans, c'est 4 ans?
Ça fait 4 ans, ouais. C'est en commun accord avec mon père et ma sœur, qui sont les personnes les plus proches de ma famille, j'allais écrire un disque comme ça, que c'était nécessaire. J'en ai toujours parlé des différences sociales, des racismes, des préjugés au Brésil, des choses lesquelles j'ai vécu, j'ai vu, j'ai grandi avec. Ça a toujours été dans mes disques. La différence, c'est que comme maintenant ça est devenu international, les gens ils sont au courant, ils commencent à regarder mes paroles d'une autre façon. Le fait, si jamais les auditeurs veulent voir la photo de mon album, j'ai un grand sourire. Ce sourire, c'est pour dire que je garde encore l'espoir. Mais à l'intérieur, je dis vraiment plus que jamais toutes les choses qui vont pas. Et donc, j'ai dû dire à mes parents j'allais parler un petit peu des choses qui n'allaient pas au pays, d'une façon qui pourrait m'amener quelques soucis. Donc, j'en ai quelques-uns au niveau d'Internet, tout ça. Ils ont essayé de bloquer mon Instagram, mon Twitter. Il y a beaucoup de haters d'extrême droite, etc., qui me tapent un peu dans le cervelle. Mais on avait dit avec mon père que j'allais rester ici un petit peu jusqu'au départ de monsieur.
Donc, vous êtes en relation à distance avec votre famille?
Ouais, mais très présente.
Très présente quand même. Merci les réseaux sociaux pour ça.
Merci Notre-Dame de Wi-Fi.
Merci Notre-Dame de Wi-Fi, j'aime beaucoup. Sur le Brésil, j'ai lu que vous étiez justement dans une démarche de naturalisation en France d'ailleurs.
On va essayer.
Ouais, c'est en cours encore.
Je n'ai pas encore déposé l'histoire, mais on va essayer, je vais bien.
Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Vous restez avec nous, Flavia Coelho, dans Chacun sa route jusqu'à 15h. Crois en l'amour comme on croit au printemps. On va écouter ensemble M, ce titre au profit du Secours Populaire. Crois au printemps.
Te souviens-tu du temps de nos confinements? J'étais triste et hagard, ne sachant plus vraiment si les jours reviendraient des grands rires et du vent. Tu m'as dit doucement qu'on avait en deux temps toutes les solutions à nos questionnements. Thank you. ne sachant plus vraiment si les jours nous rendraient plus aimés, plus aimants. Tu m'as dit tendrement que j'avais maintenant toutes les réponses à mes questionnements.
Sur France Inter. Chacun sa route avec Flavia Coelho jusqu'à 15h. Flavia Coelho, on vient de passer du coup 7 heures ensemble et vous avez commencé chacun sa route avec une lecture que vous avez écrite, et il y avait notamment Cœur qui s'en va à la recherche de qui, à la recherche de quoi, enfin de qui, de quoi. Est-ce que vous pensez à presque 40 ans que ça y est, vous voyez ce que vous êtes allé chercher?
Ah jamais, ah non, il y a encore, j'espère que je vais passer 120 ans et je ne trouverai jamais ce que je cherche, parce que le but dans la vie c'est ça, c'est de chercher, et le plus tôt on trouve, non, plus tard on trouve, mieux c'est.
C'est vrai.
Bien sûr, comme ça on perd jamais la curiosité. Pour moi c'est ça en fait, les voyages, il faut toujours aider à éveiller cet enfant éternellement. Il faut gérer cet enfant qui est dans nous pour garder toujours ce bonheur, cette curiosité, cette envie de continuer de voir encore et encore.
Ça se travaille, la curiosité?
Ça se travaille, bien sûr. Il faut se forcer parfois à dire non, j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie de voir ça, je préfère rester dans un petit cocon. Non, vas-y, il y a toujours quelque chose de nouveau, il y a toujours une phrase. Après, il faut être observateur aussi, je pense, c'est important. À l'écoute surtout.
Flavia Coelho, j'ai une mission pour vous.
Oula.
Chaque jour, pour terminer chacun sa route, on fait le portrait d'une exploratrice, la même, toute la semaine. Et cette semaine, on débute donc le récit de la vie d'Ella Maillard. Flavia Coelho, vous êtes pour les prochaines minutes, si vous le voulez bien, Ella Maillard. Nous partons en Suisse, cette semaine. Pas très longtemps parce qu'on a des fourmis dans les jambes, mais assez pour qu'Ella Maillard ait le temps de naître. Nous sommes en 1903, à Genève, et c'est une petite fille assez chétive qui arrive sur Terre. Sa mère est une Danoise, l'écrivain voyageur Nicolas Bouvier dit d'elle qu'elle est indépendante et sportive, son père est plutôt bourgeois, il travaille dans le commerce de fourrure avec l'Europe de l'Est. Très informé, il aime bien débattre de l'actualité et du monde avec sa jeune fille. Ella Maillard ne brille pas particulièrement à l'école, voire pas du tout. Sa liberté, son envie de voir le monde différemment, elle le trouve d'abord dans le sport. Et pas juste dans un sport, non, plusieurs sports. Le week-end, elle part skier avec sa mère, et ce n'est pas chose courante ni pendant la Première Guerre mondiale, ni dans l'entre-deux-guerres. Elle défendra même les couleurs de la Suisse aux 4 premiers championnats du monde de ski alpin dans les années 30.
Aussitôt l'hiver venu, le souvenir des skis lancés sous la neige fraîche m'y remplissait d'un désir si lancinant que, où que je fusse, j'interrompais ce que je faisais, ou je cessais de me tracasser au sujet de ce que j'aurais dû faire, et je filais vers les auteurs.
Elle excelle aussi en hockey et crée, alors qu'elle n'a que 16 ans, un club de hockey sur gazon féminin. Mais un sport fait battre son cœur peut-être encore plus que les autres, c'est la voile. Nous sommes sur le lac de Genève, le lac Léman. Ella Maillard n'a que 10 ans quand elle apprend à barrer un voilier avec son amie d'enfance, Hermine de Saussure, qui est surnommée Miette, parce que pourquoi pas. Elle apprend à son contact, mais aussi d'une manière empirique, en regardant les marins qui l'entourent. Et en y retournant chaque jour, pour elle, flotter à quelque chose de magique, d'énergisant, pour elle qui ne manque déjà pas d'énergie.
Il y avait la découverte de l'eau, de la nature, de la navigation, des bateaux à voile, qui m'ont donné le goût d'une vie pleine et totale, où le corps, l'intelligence, le cœur vibrait en même temps.
La voile, son grand amour, l'emmène même jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris en 1924. Peut-être y croise-t-elle la nageuse Gertrude Ederle, dont nous avons fait le portrait, à réécouter sur franceinter.fr. Elle s'aligne, elle, en voile, sur un dériveur solitaire, conçu exprès pour ces Jeux. Elle est la seule femme de l'épreuve et la plus jeune. Tous ces sports sont d'ordinaire réservés aux hommes. Elle n'en a cure.
J'aime ce corps à corps avec les difficultés. Rien de tel pour toucher la réalité, pour savoir au juste comment tout se passe.
Elle termine 9e sur 17 concurrents. Et là, Maillard s'amuse aussi, en 1925, à faire une croisière de Marseille à Athènes sur un bateau sans moteur avec son amie Miette. Elle projette même de traverser l'Atlantique, mais Miette se marie et le projet tombe à l'eau, sans mauvais jeu de mots. Et là, elle n'a pas envie de fonder une famille, ni de se marier, ni même de chercher un travail. Elle veut juste être libre.
J'avais l'impression que la planète entière m'appartenait. Pourquoi ne pas en faire la découverte?
Et demain, je vous raconterai comment ses rêves d'ailleurs vont d'abord l'emmener en Russie. J'avais l'impression que la planète entière m'appartenait. C'est vous, non, Flavia Coelho?
J'espère qu'elle nous appartienne à nous tous et qu'on prenne tous soin de cette terre extraordinaire.
Ça, c'est vrai. Cette émission s'appelle « Chacun sa route ». Ça fait référence à la musique d'un film « Chacun sa route, chacun son chemin ». Quel message passer à votre voisin, Flavia Coelho?
N'ayez pas peur à les découvrir.
N'ayez pas peur de découvrir?
N'ayez pas peur de découvrir.
Et est-ce que en musique, vu que vous avez votre guitare, en même temps je vous la fais reprendre, est-ce que vous voulez terminer avec un petit message en musique?
Bien sûr. Hop.
On entend tout, on entend la guitare, la petite guitare d'ailleurs.
Tout ce qu'il veut est un peu de sunshine. Wayo, wayo, wayo. Tout ce qu'il veut est un peu de sunshine. Jogado na cela, chorando, perdido. Fique esperando un momento pour dormir, mais tranquilo.
Merci beaucoup, Flavia Coelho. Est-ce que si je fais mon générique de fin, vous pouvez juste m'accompagner ou pas?
On essaye.
Allez, on essaye. Chacun sa route, épisode 16. Revenez demain. Demain, on va s'intéresser au concept de transanimalisme. Et puis, on fera un voyage de classe avec l'écrivain Didier Héribon. Merci à Louise Cognard, Céline Dubois, Vera Louderide, Thomas Somaro et Claire-Sophie Collet qui ont préparé cette émission. C'est avec vous, auditeurs, que l'on se quitte tous les jours. Vous nous envoyez par les réseaux sociaux, par mail, comme vous voulez, un souvenir musical lié au voyage. Faites comme Émilie aujourd'hui. Dites Milou.
On est en 1999. J'ai 13 ans. C'est la première fois que je pars en vacances. J'ai grandi dans une ferme. Donc l'été, c'était plutôt la moisson. C'était très bien. Mais tous les ans, Jean et Fanfan, mon oncle et ma tante emmènent un ou deux de leurs neveux dans les Alpes. Et cette année, c'est mon tour. On dort à 5 dans une chambre avec mon frère et mes cousins. Et on a déréglé un truc du lecteur CD, je sais pas quoi. Et toutes les nuits, on est réveillé par la Mano Negra. T'es prêt, Roger?
T'es prêt, Roger? Mano Negra, Moreno!
C'était vraiment une émission très solaire, la Mano Negra, quelques accords de la Mano Negra sur France Inter, 01 56 40 68 68 pour nous raconter vos souvenirs à vous.